Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette chronique d'histoire locale. Et on a le plaisir également d'accueillir Pierre Dumont. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Donc Pierre va nous parler aujourd'hui d'un sujet particulier d'histoire locale, un de ses sujets de prédilection qui est le protestantisme en Beauce. Donc Pierre va nous expliquer un petit peu sur ce thème, comment le protestantisme est arrivé dans notre région, l'histoire du protestantisme également, la différence entre le catholicisme et le protestantisme, comment il est arrivé dans l'Orléanais, ce qu'il en est arrivé par la suite, la réforme, l'édit de Nantes. On ne va pas parler d'histoire de France, on va surtout parler d'histoire locale, d'histoire de l'Orléanais et puis l'histoire de la Beauce.
Oui, il faut dire, Régis, que cette Beauce orléanaise, puisqu'il y en a plusieurs, a été extrêmement mêlée à l'histoire du protestantisme parce qu'elle appartenait à ce qu'on appelait une église. L'église, pour les protestants, c'est un pasteur et des gens qui l'ont nommé, qui l'ont désigné, qui l'ont élu. Or, ici, dans ce coin de Beauce, là on est à Artenay, mais c'est beaucoup plus large que ça, on dépendait d'Orléans, proprement dit, et des pasteurs clandestins ou pas d'Orléans. Donc on peut parler effectivement de protestantisme de la Beauce orléanaise, qu'on peut différencier d'un protestantisme de la Beauce de Chartres et de Châteaudun, dont la population attachée aux églises était beaucoup plus noble, voire très noble, que ici. Ici, les gens qui sont devenus protestants le sont devenus par révolte. C'est surtout des gens qui étaient mécontents de la situation sociale qu'ils vivaient autour de leurs prêtres et autour de leur église. Donc, différence sociale très forte. Comment ça a commencé? Mais ça a commencé en fait très tôt. On a la meilleure université à l'époque d'Europe. Paris ne donne comme cours que des cours ecclésiastiques. Nous, on donne des cours de droit en plus, ce qui est interdit à Paris, parce que ça semblait déjà assez révolutionnaire. Et on a des accords avec ce qu'on appelle des nations, c'est-à-dire des petits coins de l'Europe qui nous amènent des étudiants compte tenu d'un accord. Dans ces coins, il y a la nation picarde, il y a la nation normande, il y a la nation alamande. La nation alamande, c'est ce qu'on appelait l'Allemagne à l'époque, de façon administrative et pas historique. On dépendait de cette nation alamande, Strasbourg par exemple, mais aussi une partie des Pays-Bas qui s'y était rattachée et qui avait un accord pour venir à la faculté d'Orléans. Qui venait ? C'était pour la plupart des gens de grande bourgeoisie, voire de noblesse, et de noblesse intelligente et éclairée. Or, cette noblesse-là qui venait à Orléans est devenue luthérienne. Voilà comment le protestantisme est arrivé à Orléans.
Donc là, on est à quelle époque ? On est en 1500 ?
Là, on est en 1520, 1530, et peut-être même un petit peu avant, puisque je crois qu'il y a eu des accords avec les pays alamands, pour qu'ils aient effectivement qu'ils soient représentés à Orléans à partir de 1300.
Hein,
c'est vraiment très très tôt, dès la création proprement dit de la faculté d'Orléans.
D'accord, donc l'université d'Orléans est très importante à l'époque.
C'est la plus grande université pour le droit romain.
D'accord. En fait.
Alors ces étudiants-là avaient en plus chacun leur représentant. C'était très hiérarchisé. Et on a la chance d'avoir en archives pratiquement toutes les archives de la nation alamande aux archives d'Orléans. Il y a une exposition qui a été faite d'ailleurs il y a deux ou trois ans, sur ces documents.
D'accord.
Ces personnes-là ont fréquenté bien sûr des étudiants français et d'autres nations, dans cette notion, c'est de groupe, dont la nation picarde. Qu'est-ce que c'est que la nation picarde? C'est les gens qui sont du côté de Noyon, enfin, toute cette région-là, dont un certain Chauvin. Ce Chauvin a changé son nom en Calvin. Il a fait ses études à Orléans et il était catholique. Non seulement il était catholique, mais son père, lui, étant trésorier de l'évêque de Noyon, l'était aussi. Il l'était aussi, mais il était excommunié, son père, parce qu'il n'était pas en accord sur la manière de gérer l'évêché de Noyon avec l'évêque. Calvin n'était pas pauvre, loin de là, puisqu'il avait à sa disposition, en termes de revenus, déjà deux cures, comme quoi il était pressenti à devenir, sans doute, dans l'ecclésial. Calvin, ici et là, vers 1530, en 1533, il est parti à Paris, et à Paris, il rencontre des gens qui, véritablement, lui font penser qu'il y a des erreurs monumentales dans la religion catholique et qu'il y a des bienfaits dans une réforme de l'Église.
1530, la réforme est déjà d'actualité.
Ça y est, il est en train de la créer.
De la propager.
Et de la propager. Il est foutu à la porte de Paris, il revient à Bourges. Enfin bon, il y a toute une histoire là derrière et Calvin commence à avoir autorité. Et c'est cette autorité qu'il commence à avoir à travers des gens qui sont de très haut niveau social, qui petit à petit va faire que ces gens-là vont répandre cette idée-là sur l'Orléanais. Principalement, et ce sont les curés catholiques qui le dénoncent, Théodore de Bèze.
D'accord. Le fameux Théodore de Bèze, voilà. On va en parler un petit peu. Oui.
On dit que Théodore de Bèze a lui-même été sur la place de Neuville pour prêcher.
Neuville-aux-Bois.
À Neuville-aux-Bois.
D'accord.
On dit, ce sont les curés qui le disent.
D'accord.
À mon avis, c'était plus pour le stigmatiser, mais c'est tout à fait possible.
Enfin, ils l'ont dit, mais ils l'ont écrit aussi.
On n'a aucune preuve.
Ah bon, il n'y a pas de preuve écrite.
Non, parce que ces curés écrivent, mais ils écrivent ce qu'ils veulent.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
la haine, proprement dit, des prêtres catholiques par rapport à la religion protestante, je la retrouve jusqu'au début du siècle dernier.
Oui, bien sûr.
On la ressent dans l'histoire de Neuville, par exemple, qui a été écrite par Chaubert. Cette croyance est très, très vite devenue clandestine. D'où le départ très rapide de Calvin à Genève.
Clandestine parce que persécutée, en fait.
Parce qu'immédiatement persécutée, comme toutes les idées nouvelles. Il y a, sur Orléans, déjà des gens qui ont prôné des idées complètement de réforme complètement vers l'an 1022, ces gens-là ont fini au bûcher, dans Orléans. Donc on a une antériorité aussi de la manière où on se comporte par rapport aux hérétiques.
D'accord.
L'hérétique doit être supprimée. Ça va très très loin, puisque même Louis XVI a promis, au moment où il est devenu roi, de supprimer les protestants. Je dis bien le terme « supprimer ». Bon, il ne l'a pas fait, il a fait même le contraire, puisqu'il les a reconnus. Mais c'est dans l'idée globale.
Alors juste un petit rappel, Henri IV avait autorisé d'une certaine façon le protestantisme avec l'édit de Nantes, qui a été révoqué ensuite par Louis XIV.
Voilà, on a une période quand même assez longue, pendant laquelle les protestants ont vécu sans être reconnus comme minoritaires, dans un milieu extrêmement catholique, où ils se sont d'ailleurs souvent associés avec des catholiques progressistes.
D'accord.
Un certain nombre de guerres, parmi les guerres de religion, ont été faites avec des protestants alliés à des catholiques contre des ultra-catholiques. C'est pas clair, il n'y a pas deux camps. Il y a un camp de gens qui sont des gens mécontents d'un côté, et un camp de gens qui sont extrêmement raides sur leurs droits, leur religion, leur pouvoir, de l'autre, l'exemple des Guises. On est là-dessus.
Donc là, on a parlé des guerres de religion, et justement, il y a eu un impact sur ce qui s'est passé à Orléans.
Alors,
les guerres de religion, ce n'était pas seulement à Paris.
Les guerres de religion, c'était partout, et particulièrement à Orléans, parce qu'il y a eu des batailles énormes. D'Aubigny le raconte dans ses poèmes. Théodore de Bèze, effectivement, avait pressenti un certain nombre de choses par rapport à ça. Tous les grands intellectuels protestants ont tous d'abord fait la guerre, puis refusé la guerre, au point d'écrire après énormément de choses, en poèmes très jolis d'ailleurs, contre la guerre. Hein, il y a eu vraiment une pensée que la guerre était horrible. Mmh. On voit Michel de l'Hôpital, on voit des gens comme ça, véritablement haïr cette guerre et haïr également le fait qu'on laisse les protestants dans une situation de clandestinité.
Il y avait déjà des pacifistes à l'époque.
Ah, tout à fait.
Hein, d'accord.
Voilà. Donc, il y a quelque chose qui va montrer un petit peu cette clandestinité qui a été mise en place et cette non-reconnaissance, qui est le fait qu'ils étaient minoritaires, mais minoritaires dans un sens qu'ils n'étaient pas majeurs. On voit tout à fait dans Orléans et dans les communes circonvoisines les protestants devenir pratiquement autant, aussi nombreux que les catholiques, mais n'avoir aucun droit, ou très peu de droits. Mmh. À Orléans, même pendant les meilleures périodes où Orléans appartenait, entre guillemets, à un pouvoir protestant, on l'a vu avec les Groslots, on l'a vu effectivement pendant toute la période où Condé effectivement tenait Orléans, les catholiques avaient quand même négocié le fait qu'ils n'avaient pas un certain nombre de métiers possibles.
Ça fait penser un petit peu aux persécutions juives plus récentes au XXe siècle.
Tout à fait, et ça s'est passé de la même manière, puisqu'il y a eu une tentative d'extermination. Mm-hmm. Hein? Cette clandestinité, je vais te la montrer par une petite phrase qui a été faite par les protestants en jouant un petit peu sur cette clandestinité. Il s'agit d'un poème très court, mm-hmm. Qui montre un petit peu leur foi. Je te le lis d'une manière, puis je vais te le lire d'une autre.
D'accord.
J'abjure maintenant, Calvin entièrement, j'ai un très grand mépris, et en exécration de Calvin et de ses leçons. Rome, avec sa croyance, j'ai grande révérence. La messe et tous les saints, du pape la puissance, reçoit en diligence. Là, on est dans la haine. Mais si je lis une phrase sur deux de chacun des poèmes, j'abjure dès maintenant Rome et sa croyance. Calvin entièrement, j'ai grande révérence. J'ai un très grand mépris, la messe et ses saints. En exécration du pape et de sa puissance, de Calvin les leçons reçoit en diligence. C'est complètement, en fait, un texte clandestin.
Il y a un langage codé, là.
Ah, c'est complètement codé. Crité. Voilà. Et c'est un petit peu ce qui se passait tout le temps dans la région, où tout était non reconnu et surtout non reconnaissable. D'accord. Si on dit que les protestants étaient des gens qui étaient extrêmement sobres dans leur manière de se comporter, sur lequel il n'y avait pas de signes ostensibles, etc., c'est d'abord pour se protéger. Mm-hmm. Ce n'est pas forcément dans leur foi, c'est dans leur obligation de minorité de ne pas prêter flanc à ce qui est le pire, c'est-à-dire l'extermination.
C'est un petit peu aussi dans leur foi, parce que finalement, ce que les protestants reprochaient aux catholiques, d'une certaine façon, c'est certains abus, finalement, comme les indulgences.
Alors ça, principalement pour les luthériens, c'est comme ça qu'effectivement voilà. Ça a démarré.
Donc la sobriété, c'était quand même un des piliers
oui,
du protestantisme.
Oui, c'était ça. Tu as les deux côtés de la sobriété là, qui sont là. C'est remettre la religion au niveau de la Bible, proprement dit, mais de l'ensemble des Bibles. Ouais. Alors que la Bible ancienne était peu lue par l'ecclésial catholique.
Ok. Pierre, ce que je te propose, on a défini les grandes lignes là, donc, de notre sujet d'aujourd'hui, le protestantisme. On va faire une petite pause et puis après on va rentrer un petit peu plus dans le détail de ce qui s'est passé par la suite et puis rentrer un petit peu plus finalement au point de vue géographique sur le secteur du nord d'Orléans, parce que là on parle de l'Orléanais, mais on va voir que ça s'est quand même pas mal localisé sur la Beauce, sur le secteur Patay, Artenay, Neuville, tous ces foyers qui sont devenus des foyers du protestantisme. D'accord ?
D'accord.
À tout de suite.